Alléluia. Ma prédication vous a déjà été donnée ce matin par petits bouts. Certains aspects de mon message sont venus sur les lèvres de Jean-Marc, sans qu'il ne s'en doute, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver. Alors, c'est vrai que maintenant, je suis un peu nomade entre plusieurs églises. Dimanche dernier, nous étions... Où ? À la maison, c'est vrai. Ah, c'est vrai, oui, voilà. La semaine d'avant, nous étions à Redon. Et puis, un petit mois avant, nous étions à Plohermel. Et puis, voilà, on voyage comme ça. On a visité les églises du coin. Questembert, une église baptiste naissante et encourageante. Ils font un beau travail. Questembert, c'est pas loin de chez nous non plus. Et puis, ben voilà, l'Assemblée de Dieu de Redon nous accueille aussi. Il n'y a pas de frontière avec le Seigneur. On va faire quelques lectures et on va venir d'abord vers un petit prophète, mais c'est pas osé. C'est Zacharie, chapitre 8, les versets 16 à 19. Ça va mieux sans. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit le Seigneur. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance, mais aimez la vérité et la paix. Nous passons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 18 et au verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Pilate répondit : Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité ? Seigneur, merci de nous assister en ce moment. Assiste-nous tous afin que nous recevions de ta part une parole de vie. Au nom de Jésus, par l'Esprit Saint. Amen. Vous l'avez remarqué, les différents textes que nous lisons ont un point commun, c'est la question de la vérité. Question posée par Pilate. Mais c'est une question qui nous habite nous aussi. Qui parmi nous ne s'est jamais posé cette question ? C'est quoi la vérité ? Je lui adjoindrai un autre mot qui lui est très proche d'ailleurs, c'est la justice. La vérité accompagne la justice accompagne la vérité. Ces termes nous disent ce qui conditionne la vie des sociétés humaines. En Israël, l'Israël du Premier Testament, c'est le combat des prophètes. On l'a vu avec Osée, on le voit avec Zacharie. C'est la tonalité générale de tous ces prophètes qui ont exhorté, appelé le peuple à la repentance, à la fidélité et à vivre et à faire régner la justice et la vérité. Car sans justice, il n'y a pas de paix. Nous le voyons bien dans le monde. Mais la vérité et la justice permettent une vie en société. C'est vrai pour Israël, c'est vrai pour les nations, c'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour notre monde aujourd'hui. Les habitants de Juda, de Jérusalem, étaient revenus d'exil après 70 ans. Et revenus de cet exil, ils ont posé aux prêtres une question. Faut-il que je pleure au cinquième mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années ? C'est au chapitre 7. Dieu répond au chapitre 7, verset 5 de Zacharie, « Dis à tout le peuple du pays et aux prêtres, quand vous avez jeûné et pleuré pendant 70 ans, au cinquième, au septième mois, est-ce pour moi que vous avez jeûné ? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez ?» Je me suis longtemps demandé ce que ça voulait dire, ça. Et il m'est venu une pensée, je ne sais pas, on peut la partager ou pas, mais Dieu n'est pas impressionné par nos démonstrations pieuses. Et c'est encore vrai aujourd'hui. La seule chose, si je puis me permettre, qui impressionne Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Nos gestes de piété, nos formulations, nos organisations, tout ce qui est produit, le produit de l'Évangile même, en réalité n'impressionne pas Dieu, mais seulement le nom de Jésus-Christ. Après le rappel du message des premiers prophètes d'avant l'exil, ce message rejeté par le peuple endurci, Zacharie plaide pour la justesse du jugement de Dieu. C'est-à-dire qu'il plaide les raisons pour lesquelles Dieu avait exilé son peuple. Pourtant, et Jean-Marc nous le disait tout à l'heure, le message des prophètes ne se termine jamais en impasse. Il y a toujours un rayon de soleil qui finit par venir, une espérance. Il y a un après-exil. Et il se passe ce que dit le psaume 30, « Sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. » Oui, Zacharie annonce une sorte de repentance divine, de retournement. Après la fureur divine, il y a un retour de la miséricorde à l'égard de son peuple, un retour à la vie. Et il rappelle l'essentiel de la loi, ce qui importe aux yeux de Dieu. Voici ce que vous devez faire, et on l'a lu au début, c'est donc aimer, être juste aimer la vérité, juger selon la vérité et détester le faux serment. Soyez vrai, soyez juste, soyez aimant. Voilà ce que Dieu demande. Et c'est comme un résumé de toute la loi. Cela dépasse toutes les exigences de la loi, les exigences morales, les exigences cultuelles, si je peux dire ça comme ça. Dieu rappelle ces choses. Voilà ce que vous devez faire. Il y a un prophète aussi qui avait parlé de la même façon, c'est Michée. Au chapitre 6, le prophète s'interroge. Il prend conscience que ça ne va pas très fort pour lui devant Dieu. Alors il dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais verser des myriades de torrents d'huile? Est-ce que je vais donner mon fils premier-né pour mon péché, etc. Et la réponse vient, on t'a dit au homme ce que tu dois faire, c'est d'aimer la miséricorde, de pratiquer la justice et de marcher humblement avec ton Dieu. Là aussi, c'est un résumé de toute la loi. Les démonstrations religieuses sont donc vaines. Les jeûnes du 4e mois, du 5e mois, du 7e mois, du 10e mois, ils en avaient rajouté. Eh bien, vous devez les changer en jours de fête et d'allégresse et de réjouissance. Ne ressassez pas vos amertumes. Ne ressassez pas vos culpabilités. Ne restez pas encroûtés dans ce que vous avez vécu. Maintenant, on se lève et on marche. Dans l'allégresse. Vous qui marchez sur la route, chantez. Soyez dans la joie, mais aimez la vérité et la paix. Alors, qu'est-ce que la vérité ? Eh bien, c'est ce que Dieu nous annonce en Jésus-Christ. Dieu nous annonce le même triomphe de la vérité et de la miséricorde en Jésus-Christ. Il annonce une mutation inouïe, un changement déroutant. Il n'y a pas que Pilate qui est dérouté, là. Il appelle à changer de route. Il appelle à notre conversion. La mission de Jésus est, selon ce qu'il dit à Pilate, de rendre témoignage à la vérité. Et à la suite de Jésus, nous avons hérité de cette même mission. Nous sommes ici pour rendre témoignage à la vérité. C'est la mission de l'association Passerelle, par exemple. Les gestes, les actes qui sont posés rendent témoignage à la vérité. Mais c'est quoi la vérité? C'est annoncer l'Évangile et c'est le vivre. Par exemple, l'épître de Jacques est Jacques écrit ceci au chapitre 3, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » L'apôtre Jacques met en garde contre une démonstration religieuse hypocrite, superficiel. Lorsque nous jugeons quelque être humain que ce soit sur la couleur de sa peau, sur sa situation sociale, économique, ou sur sa nationalité, ou sur ses migrations, pour échapper aux tyrans de ce monde, lorsque nous jugeons ces gens, nous ne rendons pas témoignage à la vérité, nous restons prisonniers de l'ancien monde. Pilate questionne Jésus et prend ses réponses en politicien. Es-tu le roi des Juifs? Qu'as-tu fait? Pilate veut mesurer l'impact de Jésus sur l'ordre public. Est-ce qu'il menace son pouvoir à lui et à Rome? Et les réponses de Jésus le déconcertent. Et il finit par le prendre pour un innocent. C'est d'ailleurs ce qu'il dira aux Juifs. Je ne trouve aucun mal en lui. Il n'est pas dangereux du tout. Pour l'instant, Pilate en est là. Quand Jésus lui révèle la nature de sa royauté, mon royaume n'est pas de ce monde, et la nature de son action, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, Pilate est en plein malentendu. Et il clôt l'entretien par une question un peu échappatoire, d'ordre philosophique. Qu'est-ce que la vérité ? C'est un homme blasé, un homme désabusé, Pilate. Il est pourtant invité à creuser un peu plus, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que, à ses yeux, l'important, c'est son siège de gouverneur. En dehors de ça, alors, qu'est-ce que la vérité ? C'est aussi notre question. La vérité de Jésus n'est pas d'ordre philosophique. Elle déborde infiniment tout ce que nous pourrions imaginer. Elle n'est pas d'ordre religieux, dogme, tradition, pratique. Si nous faisions de ces choses la vérité, nous tomberions dans une idolâtrie. On peut idolâtrer la Bible. On peut idolâtrer l'Église, les conciles, que sais-je. Et il faut éviter cela. La vérité n'est donc pas dans ces choses. Il y a des vérités dedans, mais ce n'est pas la vérité à laquelle Jésus rend témoignage. C'est beaucoup plus que cela. Ce n'est pas la morale non plus. Ou une science plus ou moins exacte. Par la réponse que Jésus donne à Pilate, Jésus nous met sur la voie en disant ceci : quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il s'agit donc non pas de connaissance, mais d'appartenance. Il s'agit d'appartenir à celui qui est la vérité. La vérité est une personne. Pour paraphraser Renaud, vous rappelez, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, tata. Eh bien, je dirais, c'est pas l'homme qui possède la vérité, c'est la vérité qui le possède. Pour l'Évangile, selon Jean, la vérité est une personne humaine, et elle l'est en vertu de ceci. Il a traversé la mort, il est ressuscité d'entre les morts, et il a été établi par Dieu comme Seigneur de l'univers. Voilà la vérité à laquelle nous avons la grâce d'appartenir et au nom de laquelle nous avons la grâce de témoigner nous aussi. Alléluia. Il s'agit d'une mutation carrément, une mutation inouïe, une œuvre par laquelle Dieu parachève un projet qu'il avait gardé en lui-même dès avant la fondation de l'univers. Ces choses qui étaient cachées dès avant la fondation du monde. Jésus les révèle, il les met au jour par sa mort et sa résurrection, par l'envoi de son esprit. Ce qui était préparé en Dieu, caché aux êtres humains, aux anges, aux puissances, aux dominations, aux démons, à tout l'univers, sont soudain parvenus à la lumière. Jésus est la vérité du Dieu sauveur. Il est la vérité du Dieu qui a tellement aimé le monde et qui l'aime encore. Et comment le peut-il ? Nous ne pourrions pas, mais lui, il l'a fait. Il ne revient pas sur l'événement de la croix. Pour lui, le monde a été jugé là. d'une manière définitive, dernière, irréversible. La fin du monde, c'était hier. C'est Golgotha. Et les nouveaux cieux, la nouvelle terre où la justice habite, c'est aujourd'hui. C'est dans nos vies, c'est dans nos cœurs, c'est dans l'Évangile. Vous me direz, alors, mais on ne le voit pas vraiment, hein ? Ce n'est pas vraiment ce que l'on constate autour de nous, c'est vrai. Et Dieu semble en congé, Dieu semble absent. Et comme le disait quelqu'un dans, lorsque nous défilions dans les rues de Nantes pour protester contre la guerre en Bosnie et contre la notion de purification ethnique, il y a un gars qui nous interpelle et qui nous dit « Oh, mon Dieu, il ne fait rien !» Mon collègue réformé lui dit de tac au tac « C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse quelque chose. » Nous rendons témoignage à la vérité quand nous faisons quelque chose. Une mutation, ai-je dit. Une mutation inouïe. Dieu crée en lui une humanité nouvelle, sainte, sainte, libre, dépassant toutes nos hiérarchies, juifs, non-juifs, hommes, femmes, serviteurs, patrons, maîtres, esclaves, riches, pauvres, malades ou bien portants, de toutes les familles humaines, tout est dépassé. Toutes les divisions, Dieu crée une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et on peut comprendre ainsi, par exemple, les paroles de Jésus qui ont choqué de son temps. Ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. Bon, je ne connais pas, qui c'est ma mère et mes frères ? Ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, qui accueillent ma parole et qui la vivent. Celui-là, il est mon frère, ma sœur, ma mère. Alors là, les cartes sont vraiment brouillées. Ça, c'est la bonne nouvelle. On pense à d'autres paroles choquantes de Jésus, choquantes pour ses contemporains, quand il rappelle que Dieu a envoyé Élie à aucune veuve en Israël, mais une veuve à Sarepta, à l'étranger, quoi. Et qu'il y avait plusieurs lépreux à l'époque d'Élisée. Aucun d'eux ne fut guéri, si ce n'est Naaman, le général syrien qui avait vaincu Israël. Jésus rappelle ça. Ouf, ça n'a pas fait plaisir. Hein. Dieu crée une humanité nouvelle, sainte, libre, dépassant l'hiérarchie, les divisions et manifestant l'amour inconditionnel de Dieu. Voilà la vérité avec un grand V. Si nous plaçons notre confiance en lui et si nous manifestons cette confiance dans le baptême en son nom, parce que ça fait partie de la vérité, il faut le rappeler, eh bien, tu te solidarises avec cette mutation. Tu es en marche vers une mutation. L'apôtre Paul en parle. Il dit, notre corps revêtira l'incorruptibilité. Ce corps qui se rappelle à nous parfois douloureusement connaîtra la gloire, la liberté, la vie immortelle. Plus besoin de médecin, hein, Irina ? Ce corps qui est appelé aussi à partager la gloire de Jésus. Eh bien, si nous plaçons en lui notre confiance, nous nous solidarisons avec cette mutation. La foi nous fait entrer dans la vérité et désormais, nous lui appartenons. Jésus est ma vérité devant Dieu. Ça, c'est important de le comprendre. Je n'ai pas besoin de convaincre Dieu, de le séduire, de le menacer, de faire le siège du trône de la grâce. Jésus, le nom de Jésus, suffit à Dieu. Dieu voit de moi et de toi, c'est son fils bien-aimé, c'est sa fille bien-aimée. C'est ce que Dieu voit de nous ce matin même. Moi, ça me fait un bien fou, ça. Quelle paix, quelle assurance. Malgré tout ce qui pourrait nous troubler, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La vérité. Ne nous laissons donc pas troubler par les voix qui nous disent autre chose. « Ah, t'es minable. Ah, tu vaux rien. Ah, t'es pas capable de rien. » Non. N'écoutez pas ces voix-là. N'ayez pas peur. Zacharie le dit, Jésus l'a dit souvent, ne craignez pas. N'ayez pas peur, mais soyez reconnaissants. Ne quittez jamais cet ancrage dans l'amour qui est la vérité de Dieu. Nous assistons aujourd'hui à une tentative humaine de dépassement des limites extrêmes de la vie. Aujourd'hui, scientifiques, technocrates, puissance de l'argent cherchent à singer cette mutation, œuvre de Dieu. On nous promet d'augmenter l'être humain. On nous parle de transhumanisme. Il s'agit là d'un orgueil démesuré, d'un égarement, fruit du père du mensonge. L'adversaire, une singerie de l'œuvre divine réalisée en Christ à la croix de Golgotha et au matin de Pâques. Dès le commencement, le tentateur avait instillé cette convoitise de l'être humain. Vous serez comme des dieux. Et ça n'a pas quitté l'esprit des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Elon Musk et d'autres comme lui prétendent accéder par leurs moyens techniques à l'immortalité. Pauvres gens, quelle illusion! Pauvre monde qui se croit en avance et qui est en retard de plus de 21 siècles. Ce monde faussé qui ne connaît pas et même refuse la vérité ne peut créer que le mensonge, l'injustice et la souffrance tragique de notre temps. Oui, on peut être inquiet pour nos générations qui viennent, mais tout au fond de nous doit rester chevillé dans notre cœur la confiance. N'ayez pas peur. Dieu reste le maître de nos destinées, de celles de nos familles. Alléluia ! Amen. La vérité, c'est ça. Oui, ce monde va au-devant de l'échec comme les bâtisseurs de la tour de Babel en ont fait l'expérience. Un romancier américain, Richard Powers, a écrit ceci. « La science-fiction permet de se demander ce que vaut un être humain. » C'est dans la science-fiction qu'on trouvera le roman de l'avenir. Pauvre homme. Le témoignage que Jésus rend à la vérité met en lumière des choses qui étaient cachées. Une sagesse inconnue des hommes. Paul dit que si le monde avait connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. La vérité est ce désir éternel de Dieu de tout réconcilier en le Christ, les choses qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux. Donc c'est de cette vérité que Jésus témoigne. Il nous engage à agir dans l'Église comme dans le monde pour la justice, la réconciliation, la liberté. En somme, le programme des prophètes, rien d'autre, comme Zacharie, Michée et d'autres encore, et surtout de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cette vérité nous engage donc à agir, mais aussi à prier, et à prier sans relâche pour la venue du règne sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si de nos jours, dans les églises, on parle beaucoup du retour de Jésus, de sa venue glorieuse sur les nuées du ciel. Je ne sais pas si on en parle beaucoup. Moi, quand je me suis converti, on en parlait tout le temps. Il y avait même un chant qui... j'ai la mélodie en tête, qui parlait du retour de Jésus. « Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? Sommes-nous prêts ?» En tout cas, si nous sommes prêts, alors nous ne pouvons pas abandonner ce sujet de prière sans relâche pour la venue du règne. L'Esprit Saint et l'Épouse disent « Amen, viens, Seigneur Jésus. » L'Esprit et l'Épouse, cet Esprit qui émane de Jésus, qui est la prolongation de Jésus dans nos vies, vient nous aider dans nos prières, nous porter à prier, nous aimanter. J'aime bien ce mot « aimant ». Ça parle d'amour, mais d'attirance aussi, de désir profond. Laissons-nous aimanter par l'espérance. Amen. On prie ?